Cette invitation, je trouve c'est très important de parler de la propagande djihadiste avant que je commence de faire disons, ma propre intervention. Je voudrais bien commenter un peu l'intervention de monsieur. Donc, je suis allemand, donc pas toujours très diplomate, mais relativement direct, avec mes côtés arabes aussi. Je trouve ça en effet très important que la gendarmerie s'intéresse à ce genre de choses. Et des éléments de votre analyse étaient définitivement pertinents. Maintenant, en France, on cherche actuellement la juste terminologie. On ne cherche pas uniquement des contre-mesures contre cette propagande, mais on est dans une grande recherche de la terminologie. Donc, premièrement, propagande et guerre d'information sont deux choses très distinctes. Donc, la propagande, c'est jamais neutre. Et essaye d'influencer, donc quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aura pas fait autrement. Les djihadistes ne sont clairement pas dans une guerre d'information, eux sont dans une guerre de propagande, dans une guerre des médias asymétriques. Donc ils ont, à toute façon, comme tous les terroristes, dans une guerre asymétrique où les médias peuvent amplifier leur pouvoir à un degré pas possible. Donc qu'est-ce qu'on répond à ça? Certainement pas. Nous, on doit faire l'information, donc, mais on est dans une confrontation médiatique où nous, on doit agir, je pense, avec la vérité. Donc, je déteste, par exemple, le mot contre-propagande que le gouvernement français actuellement utilise un peu trop souvent, parce qu'on peut juste opposer à eux déjà la vérité, une vérité qui est très douloureuse pour nous, en partie. Casser l'argumentaire des djihadistes. Donc là, actuellement, il y a plein de conférences à Paris où les spécialistes internationaux sont invités parce que la France elle a malheureusement pris beaucoup de retard à ce niveau dans la lutte médiatique. Donc on parle beaucoup, il y a du nouvel vocabulaire qui est très en vogue, comme le contre-récit. Casser les récits djihadistes. Tout à l'heure, dans ma propre présentation, je vais venir sur les grands récits que les djihadistes se sont créés. Donc, il faut créer les contre-récits. C'est un mot qui, je trouve, pas si bien non plus, parce que on se positionne contre quelque chose, mais en réalité, donc, on donne plus d'importance à ces djihadistes, ce qu'ils ont réellement. Donc, moi, je préfère, par exemple, le truc de contre-récit, contre-discours. Non, je préfère, en fait, les mots. Discours alternatif ou récit alternatif à contre-récit. Mais je vais revenir sur ça. Maintenant, parce que je pense que c'est important pour vous, l'information en France circule actuellement très mal aussi. Donc là, on avait mentionné le programme Channel en Angleterre, qui en fait, donc les Anglais étaient les premiers qui ont fait vraiment un plan national de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Avec des volets complètement sécuritaires, mais aussi avec des grands volets prévention et déradicalisation, un autre nouveau mot-clé qui est apparu en Europe. Et comme vous avez souligné, Channel n'est pas complètement adaptable en France parce que l'Angleterre, et ça se limite d'ailleurs à l'Angleterre, pas à la Grande-Bretagne, ces programmes, c'est des programmes qu'ils ont basés sur une gestion communautaire de la société. Il y a de petits éléments à prendre parce qu'il y a des initiatives très intéressantes. Donc, au début de l'année dernière, moi et une copine, on a publié une étude comparative. Peut-être on va la mettre à disposition de tout le monde. Et je dis, l'information circule mal. Pour le CIPD, qui est un peu, c'est quoi le CIPD? Le Comité interministériel de prévention de la radicalisation, qui a changé le nom. Qui l'organisme qui essaie de coordonner les efforts gouvernementaux, mais aussi pour la gendarmerie nationale, pour les services de sécurité, en matière de prévention, d'abord sur la délinquance classique, mais de plus en plus en effet sur la radicalisation. Donc je vais vous passer la note du CIPD, où on fait la comparaison entre Allemagne, France, Danemark et la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre dans ces cas. Où ces concepts sont expliqués un peu mieux, mais vous trouvez aussi des initiatives qui sont complètement importables de l'Angleterre, des initiatives individuelles qui sont super. Je disais aussi, là, ça il faut dire aussi honnêtement, il y a plein de tabous politiques en France. Une partie des rapports était publiée dans la politique étrangère. Le préfet qui a commandé le rapport n'était pas du tout content qu'on avait publié ça. C'est un truc fait à travers Sciences Po qui était non exclusif, donc on est chercheur, donc on a une liberté de temps, mais ils ont presque pété le câble quand ils ont vu ce qu'on a publié dans la politique étrangère, parce que le gouvernement français actuellement elle est vraiment en train d'agir contre nos recommandations. Ils ont pris beaucoup de recommandations, de moi personnellement, c'est une raison. Je suis assez fier qu'ils ont pris certains, ça fait toujours plaisir, mais ils ont aussi allé à l'encontre de recommandations que tous les autres Européens ont fait. Par exemple, aujourd'hui, on crée notamment ces centres de rétention pour les djihadistes, donc camps de concentration djihadistes. Je trouve que c'est une idée très très dangereuse et très mauvaise, on râle contre ça. Les psys en prison qui traitent les djihadistes sont en même temps indiques. C'est pas bon, parce qu'il faut avoir des gens neutres. Donc, c'est des sujets extrêmement délicats. C'était juste pour rebondir avec un peu d'honnêteté et de franchise sur votre présentation très intéressante et fournir quelques éléments supplémentaires. Donc, je vais fournir un dernier élément supplémentaire. C'est, vous avez dit qu'il faudrait une stratégie nationale de contre-discours, disons ça comme ça, ou contre-influence. Très honnêtement, je pense que c'est pas jouable. C'est-à-dire les messages djihadistes, ils sont tellement diffus, donc ils s'attaquent à plusieurs fronts. Il faut vraiment activer toute la société civile, et déjà les acteurs gouvernementaux comme Stop Djihadisme et tout ça, qu'on a conseillé aussi, ils n'ont pas de crédibilité. Stop Djihadisme a 7000 followers sur Twitter. Moi j'ai des copains en Égypte qui ont 450 000. Des journalistes spécialisés du djihadisme comme mon camarade David Thompson a 95 000. Et Stop Djihadisme, c'est de temps en temps une bêtise affolante. Il y a des choses là-dedans. Vous avez peut-être suivi un tweet qui était autant arrivé à Raqqa et se retrouver veuf, elle avait très envie de faire sauter. C'est faire sauter. Donc, bravo. Donc, ça fait un tabac. Là, ils ont eu vraiment des retweets à gogo parce que c'est tellement sexiste, inadmissible et mauvais. Donc, les acteurs étatiques ne sont pas forcément les mieux. Donc, il faut commencer, à mon avis, une réflexion sociétale à tous les niveaux. Comment contrer ou comment créer des récits alternatifs. Donc, il y a les villes qui y réfléchissent, il y a des associations de jeunes qui y réfléchissent, il y a des associations musulmanes qui y réfléchissent. Mais l'État, il est vraiment pas le mieux placé pour faire ça. Une mesure que l'État va adopter, c'est la création d'une fondation pour donner un peu d'argent ou lancer des concours pour la société civile de contrer les discours djihadistes. Parce que pour vraiment créer, que les jeunes créent leur propre entrée Facebook, leur propre petit clip vidéo, avec des récits alternatifs qui ne sont pas forcément très politisés, mais qui contre cette grande récit djihadiste. Et souvent, donc, en Allemagne, ils ont lancé un concours, ça c'est une suggestion que nous on a fait comme chercheurs, ils ont lancé un concours comme ça, ça fait une année, et là, ils vont faire un peu la même chose ici. Et au niveau de la coopération européenne, il y a vraiment, je pense, des choses à voir. Mais cette idée de développer une stratégie nationale, ça ne fonctionnera pas, parce que ça sera toujours associé avec l'État, et donc perd énormément en crédibilité. Donc, ça c'est... Non, mais pour répondre, là, c'est vraiment un atelier. Si vous êtes d'autres, vous avez le droit de répondre là maintenant, c'est pas un problème.
Tout simplement, moi, j'entends et j'apprécie les propos... J'apprécie les propos très directs et c'est le débat d'idées. Volontairement, comme je l'ai dit, je n'ai pas tranché entre propagande et guerre d'information. Je savais que je ne me lance pas dans le débat sémantique parce que je suis évidemment... pas d'accord, mais peu importe, je pense que ça c'est le côté expert, et surtout quand on écrit une thèse, on est passionné. Donc oui, j'entends, moi je vous dis aujourd'hui, je pense que les deux sont, on peut les mettre en perspective, mais je ne reviens pas là-dessus. Par contre, pour la stratégie, et là par contre, je suis catégoriquement certain que c'est ce qu'il faut, et là par contre, je me permets justement de faire une culturelle allemande avec l'État fédéral, et avec des landers, que eux, justement, donne une impulsion qui ensuite se retrouve au niveau national, correspond à l'Allemagne. Ça à la France. Et à la France, il faut que ça vienne d'en haut. Par contre, l'idée, c'est pas de faire un cadre qui soit formel, dans une stratégie, il faut l'écrire, elle s'attache à la fois à la forme, le fond, mais l'idée, c'est surtout d'informer. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a aucune un endroit dans un espace gouvernemental où une université, des chercheurs, des professeurs, des citoyens peuvent se dire tiens, on peut quoi ça consiste. Et c'est ça l'idée de la stratégie.
Non, non, ça, ça n'a rien à voir avec une thèse ou ma passion pour ça. J'ai zéro passion pour ça. J'ai conseillé le gouvernement allemand, de même que le gouvernement français, sur ça, notamment vraiment au niveau, pas uniquement au niveau de la propagande. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur les universités françaises. Donc ça, c'est évident. Mais la recette française de l'État jacobin ne marchera pas dans ça. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas l'expérience allemande. Moi, je suis 25 ans en France. On a comparé ça avec tous les autres pays qui ont pris 10 ans d'étage. C'est un problème de crédibilité qui est énorme. L'État, pour certains groupes cibles, a zéro crédibilité. Vous expliquez dans un quartier de Marseille Nord, hein, ou ici, à 10 km quelque part, hein, que l'État vous, va dévalider la propagande djihadiste. Ils vont dire non, ça. Il y a des études. Non, mais on ne va pas discuter ça. On va pas discuter ça. Mais il y a des études empiriques que je vous demande vraiment de regarder. Ça ne fonctionnera pas. L'État peut faire une contribution minime. Donc, pour cette image-là, cette image vient d'une interview aussi. Ça, c'est une autre source de INA Global que je donnais, ça fait quelques semaines. Et je trouve, on a fait un travail ensemble. Je n'avais pas le temps d'écrire un article pour INA Global, mais on a fait ça avec deux, trois journalistes qui reprennent un peu surtout la propagande de Daesh et que je trouve vraiment bien. Donc, c'est un truc important qu'on a fait, qui a coûté beaucoup de travail à tout le monde, mais que je trouve relativement important. Maintenant, revenons sur ce que je voulais parler à l'origine. Souvent, on m'interroge, oui, pourquoi est-ce que Daesh arrive à faire de la propagande si sophistiquée, et tout ça. Pourquoi les djihadistes gagnent la guerre de l'information, si vous voulez, et tout ça. Oui, ils gagnent la guerre parce qu'ils ont 30 ans, 35 ans d'expérience dans ça. Donc, contrairement à ce qu'on pensait toujours, c'était toujours des communicants hors pair qui sont toujours jetés sur la dernière technologie d'information dans la guerre asymétrique. Ils ont beaucoup de théoriciens de la com. Donc, monsieur mentionnait un qui est devenu un peu à la mode aujourd'hui, qui s'appelle Abou Moussa Bassouri, qui n'est vraiment pas ni lié à Daesh ni à Al-Qaïda, qui est une espèce d'électron libre penseur qui a, dans les années 2000, déjà ensuite en 2005, conceptionnalisé le concept de système et pas organisation. Ça veut dire créer une espèce de matrice pour que les jeunes partout peuvent répliquer la propagande, créer leur propre propagande, aussi faire des attentats selon un certain modèle. Donc, le djihadisme, et ça c'est toujours un grand truc aussi, donc je vais commencer avec des définitions de base. Qui sait qu'est-ce que c'est le djihadisme? Une idée? Voilà, déjà, petit problème au niveau contre-gosse, c'est quoi le djihadisme? C'est quoi le terme? C'est quoi le terme? Donc voilà, ça c'est une grande confusion là, ça c'est déjà la méga confusion. Le terme djihadisme, c'est un terme de science sociale qui était probablement créé par le vieux Gilles Kepel, ici, grand star français, un de mes grands camarades mentors, donc qui note un phénomène très très récent, donc une révolution dans la pensée musulmane. Le terme n'était jamais utilisé par les djihadistes au début, djihadistes et djihadisme, c'était vraiment un truc pour décrire un phénomène. Eux vont dire, on est les seuls vrais musulmans. Donc c'est quoi le djihadisme? Le djihadisme, il est né, donc avec ses premières images de propagande, dans notre guerre collective, comme alliés avec les djihadistes contre les soviets en Afghanistan dans les années 90 du siècle dernier. Et qu'est-ce que dénote le djihadisme? Il dénote une détournement total ou une révolution totale du concept de djihad. Donc le djihad jusqu'à là était, on faisait la distinction entre le grand djihad qui est un effort surtout sur soi-même de devenir un meilleur croyant, un meilleur musulman, et ensuite pour dire, devenir généralement un être qui est meilleur. Après il y avait des petits djihad qui étaient les djihad offensif ou défensif, mais dans la plupart, donc militairement, dans la plupart des cas, un djihad militaire, de toute façon, mais défensif. Et surtout encadré par une jurisprudence très, très rigoureuse. Cette jurisprudence très, très rigoureuse disait, en gros, le djihad doit être déclaré par un souverain musulman légitime. Donc quelqu'un qui gouverne un certain territoire en absence d'un calife aujourd'hui, donc quelqu'un qui était vraiment reconnu par sa communauté comme légitime. Et deuxièmement, c'était une obligation collective d'un certain groupe de population sur un certain territoire. À savoir, c'est-à-dire si, admettons, la Syrie était attaquée par une force étrangère, c'était aux Syriens de les défendre, de la défendre. Pareil pour l'Afghanistan de l'époque, ou après l'invasion soviétique. Mais des intellectuels, entre guillemets, agistes, ils ont opéré une transformation totale du concept. Ils ont dit, voilà, on n'a plus besoin d'un souverain. Chaque savant musulman peut déclarer le djihad s'il se trouve ça justifié. Et ce n'est plus une obligation collective, c'est une obligation individuelle pour chaque musulman au monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont voulu mobiliser des musulmans du monde entier pour défaire les soviétiques en Afghanistan. Donc c'est un changement de conception radical. Après, le djihadisme, donc ça c'est les premières. On sait très bien qui étaient les figures les plus influentes pour opérer cette transformation. C'est notamment un Palestinien qui s'appelle Abdallah Azam, je ne sais pas si j'ai une image de lui ici, qui était un grand érudit, contrairement à beaucoup de djihadistes aujourd'hui, un grand érudit musulman, mais assez radicalisé, qui a dû étudier dans les meilleures facultés de droit islamique partout du monde, et qui était le mentor de Ben Laden. Donc si ça vous intéresse, c'est Abdallah Azam qui a dit ça. Voilà, le djihad, c'est une obligation individuelle pour chaque musulman, et deuxièmement, on n'a plus besoin d'un souverain pour le déclarer. Et troisièmement, on introduit quelque chose d'autre. Là, par exemple, on voit l'origine de ce qu'on nous hante jusqu'à aujourd'hui. Le début d'une culture, un culte du martyr dans l'islam sunnite, qui n'a jamais existé par avant. Donc, le mot martyr, shahid en arabe, dénote comme, d'ailleurs, le mot chrétien, surtout, mais encore plus que le mot chrétien, la notion de témoignage. On témoigne à sa foi. Mais aussi le témoignage tout court. Un témoin dans un cours, devant un tribunal, dans le monde arabe, il est appelé shahid, témoin. Mais ce témoignage, dans l'islam sunnite, n'était pas associé, contrairement à la chrétienté, à la souffrance, et surtout pas à la recherche de mort. C'est actif, ça n'a jamais existé. Mais là encore, Abdallah Azam et les autres qui étaient à l'époque à l'Afghanistan, et loin des attaques de suicide d'aujourd'hui, les attaques de suicide d'aujourd'hui, ça arrive 10 ou 15 ans plus tard, mais ils ont transformé le concept de martyr, qui était vraiment d'aller vers l'autosacrifice dans la bataille, chercher activement la mort dans la bataille. Et tout ça, c'est prouvé par les écrits, on voit très bien l'évolution, on ne sait plus témoigner sa foi, c'est vraiment mourir pour sa foi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Ils ont vu ça, ces djihadistes, dans une tradition d'islam qui est leur plus grand ennemi aujourd'hui. À savoir, dans le chiisme. Vous savez un peu qu'est-ce que c'est la différence entre chiite et sunnite? Donc je vais faire rapidement. Donc le chiisme et le sunnisme, c'est une des plus vieux scission dans le monde musulman, qui est beaucoup lié à qui reprend la relève des prophètes. Est-ce que ça doit être quelqu'un de la famille des prophètes? Quel est le rôle? Est-ce qu'il y a une clergé ou non dans l'islam? Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialement illuminés? Après, c'était quelque chose de tendance très iranien, déjà au 1er siècle, après la mort des prophètes, ou les Iraniens qui étaient conquis par les musulmans arabes. C'est ça, on trouve plus dans cette notion qu'il y a, c'est que les descendants de prophètes, qu'ils ont vraiment des illuminés, qui peuvent être commandeurs de croyants. Mais il y a plein d'éléments comme ça. De toute façon, c'est la grande scission, la première grande scission entre les différents groupes musulmans, déjà 100 ans après la mort de prophètes. Après, dans ces scissions, il y a les chiites qui ont reconnu l'oncle des prophètes, qui était le quatrième calife, la ligne du quatrième calife, vraiment comme la ligne qui devra représenter tous les futurs califes. Donc, cette calife s'appelle Ali. Il a un fils qui est Hussein. Et eux, le chiisme aujourd'hui, ils ont un deuil commun et une espèce de culpabilité collective commun pour la mort d'Ali qui a combattu donc les autres musulmans, parce que la fraction d'Ali, donc les futurs chiites, les ont trahis en bataille, ils n'ont pas combattu avec lui. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent ce sentiment de culpabilité collective. Vous avez vu déjà des rites comme la Shura, ça vous dit quelque chose? L'autoflagellation, dans ces grands rites où tout le monde se flagelle, au Liban, en Irak, des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui vont à Najaf ou Karbala, en Irak, pour se autoflageller. Tout ça, c'est les rites de la culpabilité collective pour la trahison d'Ali et de son fils Hussein. Maintenant, parallèle à l'Afghanistan, bon, c'est un peu long, mais c'est très important comme roman. Parallèle à l'Afghanistan, donc l'invasion soviétique, il y a les chiites qui sont en guerre, donc les Iraniens chiites, en guerre contre Saddam Hussein en Irak, les sunnites. Une guerre atroce. Guerre de tranchées, comme un peu la Première Guerre mondiale, où l'Iran, ou la République islamique d'Iran, qui venait juste d'être fondée, est en infériorité militaire totale, sous embargo de l'Occident, aux amis de Saddam Hussein, où tout le monde doit livrer des armes, les derniers missiles, des avions, et tout ça, pour défaire la République islamique et gêner l'Occident. Donc, qu'est-ce que l'ayatollah, et ça le disent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les ayatollahs de Téhéran, ils ont fait pour combler cette infériorité technologique? Ils ont utilisé les seuls avantages qu'ils avaient, c'était leur avantage démographique. À savoir, ils avaient trois fois presque la population de l'Irak, qui était autour de 20 millions, et c'était déjà autour de 50 ou 60 millions de personnes. Donc les ayatollahs de Téhéran, ils ont utilisé ce sentiment de culpabilité collective pour appeler au sacrifice. Donc sacrifice, ce n'est pas ceux qu'ils ont l'âge pour. Vous voyez ces images de jeunes de 17 ans avec le bandana autour de la tête qui se jettent sur les chars irakiens. Donc les martyrs, donc c'est cette notion de cette culpabilité collective utilisée pour appeler activement aux martyrs. Et ça, elles vous disent, vous demandez à un ayatollah en Iran, ils sont très fiers de ça, qu'ils ont dit ça, c'était leur seule façon. Donc, l'auto-sacrifice fait, qui n'a jamais existé, il n'y avait jamais auparavant des attaques suicides, des attentats suicides en islam, fait l'entrée d'abord dans le chiisme. Et le chiite commence à développer ça plus loin, c'est pas uniquement que les jeunes, toute une génération de jeunes qui se sacrifient. Les chiites iraniens sont très actifs aussi en créant la Hezbollah, la grande partie chiite, au Liban. Et là, on voit les premiers attentats suicides avec un succès spectaculaire. À savoir, ces attaques suicides contre les forces US au Liban, contre le quartier général de forces françaises, le Drakkar, au Liban, et contre les Israéliens au Liban, l'année exacte, je ne me souviens plus, très au début des années 90, a comme conséquence le retrait des troupes françaises, américaines et israéliennes de Liban. Donc là, l'attaque suicide fait sa preuve comme guerre asymétrique. Au même temps, on trouve alors Abdallah Azam, le fondateur du djihadisme, avec ses petits élèves, entre autres Ben Laden, le chef actuel de Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, en Afghanistan. Il regarde très bien ce que les chiites font. Donc ils se disent, on va faire la même chose peu à peu. On va introduire cette notion de sacrifice au combat. Abdallah Azam disait d'abord, voyez, on va se sacrifier en combat. Pour que cela fonctionne, ils étaient obligés, et là il y a le rôle de la propagande qui très important, de créer un culte de martyrs. Parce que cette culte de martyrs, dans le sens mourir pour la cause, faire des attaques kamikazes, n'existait pas du tout dans l'islam sunnite. Donc là, dès le début, ils ont utilisé des images l'audiovisuel, qui est un peu une contradiction avec leurs propres valeurs. Parce que théoriquement, si on regarde aujourd'hui, des villes comme Palmyre sont détruites, le Bouddha de Bamiyan, elles rejettent théoriquement l'image, mais eux créent eux-mêmes une culture d'image. Donc cette image que vous voyez intéressante, c'est très intéressant, c'est les premiers films des martyrs. Ça semble très kitsch. Mais c'est quelqu'un qui meurt en combat, qui flotte dans le ciel pour démontrer qu'elle est déjà au paradis. Et c'est la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui, jusqu'à Daesh. Donc là, c'était réellement fondé. Là aussi, ils ont créé une symbolique propre au djihad. C'est une image de. La calache et le Coran croisé, c'est pour tout le monde aujourd'hui, c'est des djihadistes. Vous voyez ça n'importe quoi, en plus moderne, c'est des djihadistes. Mais c'était vraiment le truc qu'ils ont consciemment créé pour, en effet, créer cette grande récit sur le martyr, donc sur la défense de l'islam. Ils ont revendiqué que c'est le seul vrai défenseur de l'islam, les djihadistes. Et ils ont créé cette culte de martyr qu'on poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc Abdallah Azzam, le fondateur du djihadisme moderne, écrivait par exemple dans un de ses livres qui s'appelle notamment La Caravane des Martyrs, que l'histoire humaine s'écrivait pas avec l'encre des savants, mais avec le sang des martyrs, etc., etc. Et après, pour le culte des martyrs, ils ont surtout aussi créé cette notion de faveur pour le martyr. Donc, exagérer son rôle, et ils ont maintenu le fait que le martyr, donc dans le sens quelqu'un qui sacrifie au combat ou qui fait des actions kamikazes, est une espèce de musulman VIP, parce qu'il gagne le billet VIP pour aller au paradis. Tous les musulmans, de manière générale, doivent attendre le jour du jugement dernier pour aller au paradis, sauf ceux qui sont sacrifiés au combat. Donc ça, c'est très attirant pour nos jeunes jusqu'à aujourd'hui. Mais je viendrai sur ça un peu plus tard, sur cette anticulture du djihad avec cette promesse eschatologique mensongère. Mais l'essence de cette propagande pour tout le monde, soit c'est dans le monde arabe, ici, c'est les djihadistes sont le seul vrai musulman. Et si en plus, ils se sacrifient au combat, des préférences avec des actions kamikazes, ils vont rentrer en paradis en premier. Donc, jusqu'à Daesh, d'Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, peu importe. Ça, c'est vraiment cette promesse de la communauté de vrais croyants et la promesse de cet accès au paradis avant tous les autres. Et travailler par Daesh et pas tout le monde est très, très, très séduisant. Là, c'est Rangar, par exemple, la vente de cette promesse. Je vais être très rapide sur le reste, mais il faut garder ça toujours comme. Là, on trouve Ben Laden. En 98 ou 19, devant une carte mondiale. Pourquoi? Parce que là, il y a le deuxième grand changement de paradigme du djihadisme. Pour le mentor de Ben Laden, Abdallah Azzam, le djihad consistait à défendre le terre musulman, virer les gouvernements arabes et autres impiés sur des terres des musulmans. Là, on a une carte globale, parce que Ben Laden et le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, sont arrivés à la conclusion stratégique qu'ils ne pouvaient pas virer Hosni Moubarak en Égypte ou la monarchie saoudienne, parce que ses ennemis proches étaient soutenus par un ennemi lointain, donc notamment les États-Unis et ses alliés. Zionistes et croisés, donc nous, et qu'il fallut s'attaquer à l'ennemi lointain. Donc ça, c'est en gros les préparations un peu pour le 11 septembre. Ils ont déclaré leur djihad global, avec plein d'avertissements que personne, c'est pour ça que la carte derrière, personne n'a réellement pris au sérieux. Donc ces attaques commencent d'ailleurs avec les premières commencent avec les attaques contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam en 98, si je ne me trompe pas, quand je suis de temps en temps mauvaise avec les dates. Et surtout, là, elle frappe aussi déjà des intérêts français, comme le pétrolier Limbourg au large de Aden, au large de Yémen, peu importe, et une frégate américaine. Je fais encore une parenthèse. Donc ça, c'est un peu le djihadisme dans ses branches dominantes. Mais ce qu'on ne devra jamais oublier, c'est-à-dire, c'est très intéressant pour nous, qu'il y a aussi plein de petits groupuscules qui sont inspirés par ce qui s'est passé en Afghanistan. Moi, j'ai vu la première fois des djihadistes en 90 en Algérie, mais on ne les appelait pas des djihadistes, mais c'était une branche mineure à l'époque. Et on les appelait arabes afghans, parce qu'on ne savait pas. On ne connaissait pas le mot djihadisme, eux ne s'appelaient pas djihadisme, c'était moulin Kronan. Et les arabes afghans, en fait, étaient clairement responsables pour les premiers attentats djihadistes, qu'on n'appelait pas non plus comme ça, en Europe, qui étaient l'attaque en 94 contre la France, métro Saint-Michel, enlèvement de l'Airbus et tout ça. Mais c'est clairement une émanation du djihadisme, hein, mais qui n'était pas encore dans cette mouvance principale, où l'idéologie s'est vraiment développée à travers le Ben Laden, l'Ayman Zawahiri, où Al-Qaïda était devenu un peu le truc dominant. Mais c'était des gens qui se sont connus en Afghanistan, en gros, dans ce milieu djihadiste, qui avaient tous aussi lu les écrits d'Abdallah Azam, père spirituel. Mais c'est une filière qui était un peu à côté. Peu importe, aujourd'hui, la plupart de ces djihadistes algériens qui restent, hein, sont réaffiliés avec Al-Qaïda, pour en fait constituer Al-Qaïda au Maghreb. Donc c'est aussi très difficile à saisir, où... Et donc, je termine sur la propagande, mais c'est juste extrêmement intéressant. Donc, si on regarde le djihadisme, il ne faut pas voir ça comme un mouvement homogène. Il y a des douzaines de branches. On a été confrontés, nous, au phénomène sans le réellement savoir, notamment très tôt déjà, à travers ces attentats en 94 et 95, etc. Mais je vais continuer sur la propagande. Là, c'est par exemple... Il faut toujours garder en tête qu'ils ont, avec tous les moyens à leur disposition, ils ont essayé de faire la propagande. Très tôt. Le truc, Ben Laden dans sa grotte, c'est une mascarade qui fait appel à une symbolique islamique de la grotte, parce que c'est très fort, le prophète l'a reçu, la révélation dans la grotte. On pourrait aussi très bien imaginer Ben Laden comme c'est la réalité, avec son téléphone satellite ultra compliqué, tout le reste, avec des trucs de cryptage, etc. Là, c'est les gens de 11 septembre. Qu'on voit aussi qu'ils ont soigné, par exemple, c'est très intéressant pour le 11 septembre, tout était documenté dans le moindre détail. Donc Daesh, c'est pas nouveau. Il y a le testament des martyrs, il y a les préparations du 11 septembre. Ça, c'est une image qui, par exemple, on voit Ben Laden avec les trois têtes, apparemment avec les trois pilotes de l'11 septembre principal. Hein, et le commentaire explique comment ils ont planifié tout ça. Donc tout est documenté, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, Daesh ne devrait pas être une surprise. Ça, c'est déjà un peu la propagande très moderne qu'on voit, où c'est inspiré avec la dernière technologie, avec des incrustations derrière. Hein. Mais ça date depuis 10 ans, donc ils ont toujours essayé de faire la meilleure chose. Après, la ultra-brutalité, qui est aussi une arme de guerre. Hein. Donc là, c'est les premières exécutions 2005-2006 en Irak, du premier État islamique ou des organisations prédécesseurs. La ultra-violence pour terroriser le cœur des ennemis, mais aussi comme arme de guerre efficace. En 2005-2006, plus personne ne voulait aller en Irak, ni les camionneurs turcs qui étaient nécessaires pour livrer des produits, ni des Japonais qui étaient massacrés aussi, qui étaient là pour reconstruire les pays. L'ONU s'est retirée suite des attaques. Donc la terreur totale, la barbarie totale, c'est quand même aussi une arme efficace. Et ils ont toujours avec des trucs qu'on trouve un peu déglingués, là, fait appel à la jeunesse européenne. La guerre d'Irak, c'est très important pour ce qui se passe ensuite avec Daesh. En 2005-2006, ils ont, suite aussi aux écrits de théoriciens de Jihad Media, donc notamment cette personne qui s'appelle Al-Souri, essayé de développer des produits pour le groupe, pour les différents groupes cibles, notamment les Européens. Au début, ils sont très mal pris, mais ils ont quand même réussi aussi, à travers des annonces même, sur des forums internet encore un peu cachés, de recruter des hommes médias en Europe, des jeunes, qui étaient en partie arrêtés. Par exemple, des jeunes Européens sont fondés quelque chose qui s'appelle le Front des médias islamiques global, en France un peu, mais surtout Allemagne et Autriche, mais Angleterre. Donc ils ont arrêté ces jeunes, ils étaient en tôle 3-4 ans, ils ont ressorti, et là c'est les grands propagandistes de Daesh. Ils ont recruté en Europe. Donc, pendant cette période, donc, les djihadistes ils ont quand même, d'une certaine manière, réussi à infiltrer l'Europe, créer un peu cette anticulture du djihad en Europe. Les jeunes Européens ont intégré ça. Ils ont recruté autour d'eux, tout le gouvernement était en dehors de prison, là, 2009, 2010, 2011, qu'on a su recommencer. Les Européens ont enrichi cette culture de djihad très jeune avec tout le code de la société, de la culture de la jeunesse dans la société occidentale. Et ils ont réexperté tout ça en Syrie qu'ils ont allé pour encore mieux discret. 2006-2007, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait les premiers films. Ça, c'est intéressant. C'était 2006, il y avait aussi une coupe de foot. Je pense que c'était le mondial de foot. Hein. Ils ont fait un film d'une heure où on voit juste la fin. Et, film d'une heure, ils ont expliqué que la coupe mondiale n'était pas digne pour des musulmans. C'est pas une bonne chose. Pareil pour comme la télé-réalité, le truc comme Starak. Donc, ils ont foutu sa gueule de tout ça. Et ils ont créé la Coupe mondiale de Mujahideen. Et Ben Laden, elle a gagné la Coupe comme le prix spécial de la Coupe. Mais il y avait aussi d'autres jeunes. Voilà. Donc, tentative un peu maladroite de s'adresser à jeunes, mais ils ont réellement fait l'appareil. Là, ça marche beaucoup mieux. Ça, c'est un repère londonien qui, en 2007, non, 2005 déjà, faisait un truc qu'on appelait aujourd'hui l'Al-Qaïda arabe, hein, où dans le slang de l'East londonien, mais c'est une rappeur très pro, il faisait un rap pro-Al-Qaïda et pro-djihadiste en Irak. Donc, tout ça, ça date, c'est pas depuis hier. Là, il y a le porte-parole, américain d'Al-Qaïda, un juif converti californien, qui s'appelle Adam Gadam, qui parle avec un accent californien. Et qui est encore là, qui est très proche de la direction d'Al-Qaïda aujourd'hui, hein, qui là déchire son passeport américain pour expliquer que voilà, mais avec son accent californien à 100%. Donc voilà. Donc ils savent s'adresser aux jeunes, donc tout ça, c'est pas une grande surprise. Maintenant, le problème, ça c'est une image d'Abdallah Azam, donc ça c'est le fondateur père spirituel vraiment du djihadisme, qui était fait beaucoup plus tardivement parce qu'il est mort relativement tôt. 90, tué par une bombe, on ne sait pas par qui, en Pakistan. Mais il est encore vénéré par tout le monde. Daesh, tout le monde, s'en fout, les symboliques. Ok, là, on est en plein djihad web 2.0. Ça, c'est où ces choses sont devenues réellement dangereuses. Donc, à partir de 2005-2006, les djihadistes arrivent à avoir vraiment des réseaux de jeunes en Europe. Ces jeunes recrutent un peu en Europe, enrichissent tout le symbolisme du djihad avec le symbolisme de la culture de jeunesse. Et ensuite, retournent en Syrie et en Irak pour mieux recruter encore grâce à Facebook et tout ça. Parce que pour la première fois, ils ne sont plus obligés. Donc l'évolution tout à l'heure, c'est intéressant, entre télésatellitaires, donc Al Jazeera, CNN, tout ça. Deuxièmement, l'Internet, mais qui était encore l'Internet classique, hein, souvent avec des forums cachés, et l'explosion de Web 2.0, qui offrait complètement d'autres possibilités en truc de ressources. Par hasard, là, lui, c'est un rappeur allemand qui était déjà un peu connu en Allemagne. Mais c'est très intéressant qu'on trouve parmi Daesh comme le propagandiste principal, des rappeurs allemands, français, les Français sont pour la plupart morts, et des Anglais. Donc, d'un côté, des gens qui sont complètement familiers avec le code de la jeunesse européenne, qui sont un peu souvent à la marge de la société, mais qui maîtrisent complètement toute la technologie de l'information. C'est les e-natives, donc ils sont nés avec l'Internet, ils sont nés avec le smartphone, ils connaissent les logiciels de montage, ils parlent le slang qu'il parle aux jeunes, donc lui il parle en accent berlinois, vraiment quartier des Fourrés, les Anglais de Londres. Non, je fais pas. De Londres-Est, et tout ça, donc il y a une immédiateté. Donc en gros, ces gens peuvent dire aux jeunes ici, regardez, nous, on est comme vous. Si nous, ici, en train de combattre, donc c'est à votre hauteur aussi. Donc, il n'y a plus de barrière de langue, il n'y a plus de barrière de culture qui rend tout ça tellement séduisant. Et par exemple, pour la culture de jeunesse, qui s'est vraiment infiltrée, qu'on ne savait pas, est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein, ça, c'est dans le film djihadiste. Ouais? Ça, comme ça, un geste comme ça, très vite. L'islam, on ne l'a jamais vu dans le film, apparemment. C'est censé de représenter l'unicité de Dieu, l'unicité de la communauté des croyants, donc des concepts très abstraits. Mais les gestes comme ça, qu'on voit sur Facebook de milliers de jeunes, c'est clairement plutôt un signe de reconnaissance, comme une gang, comme un salut. Donc, c'est imprégné d'une extrême modernité. Pour conclure, donc on a 30 ans d'acheminement de propagande djihadiste où ils ont annexé, volé le symbole de l'islam. Le drapeau noir de Daesh, ce n'est pas du tout le drapeau de Daesh, le logo de Daesh, drapeau de Daesh, c'est une bannière de prophète avec le sceau de prophète qui appartient à l'islam total. Nous, on le voit grâce à la complicité de nos médias comme logo de Daesh. Pareil, ils ont détourné le concept de clé de l'islam, comme tout le concept de djihad en soi, le concept de martyr. Et Daesh est encore une fois Al-Qaïda, moi je ne fais même pas la différence parce que c'est la mouvement djihadiste, l'un peut devenir autant dangereux que l'autre aujourd'hui, ils ont maintenant de la vraie modernité. Donc ils savent s'adresser à une jeunesse européenne et ils sont en soi un phénomène de la modernité. Sur les raisons, dernière phrase, sur les raisons de la radicalisation, il faut être très prudent. En effet, il faut toujours faire la différence entre une jeunesse arabe qui vit vraiment dans une énorme misère socio-économique et qui est complètement désespéré par cette guerre horrible, par exemple en Syrie, et les recrutements en Europe qui vous concernent un peu plus, où on travaille aussi avec l'injustice des musulmans, vis-à-vis des musulmans, qui en trouve dans chaque élément de propagande, mais surtout cette contemporanéité de cette anticulture djihad qui fait appel dans leur langue maternelle à plein de jeunes Européens. Voilà.